On n'entend pas, on entend.
102.9.
Vous êtes sur Fréquence Buissonnière sur
102.9.
Salut, c'est Annabelle.
Salut, c'est Flora.
Salut, c'est Cédric.
Bonjour, c'est Emmanuel.
Bonjour, je m'appelle Vanessa.
Salut, c'est Laurie.
Salut, c'est Gauthier.
Bonjour, c'est Vanessa.
Salut, c'est Claire.
Salut, c'est Charlène.
Bonjour, je m'appelle Flavie.
Salut, c'est Marie.
Salut, c'est Julien.
Salut, je m'appelle Émilie.
Salut, c'est Delphine.
Ça se passe au collège Arthur Rimbaud de 18h à 19h.
Vous écoutez Fréquence Buissonnière sur 102.9 à Chalandray, Héron,
Froze, Le Rochereau,
Maillé,
Latillé,
Chirin-en-Montreuil,
Vouillé,
Quincé,
Benasset,
Lavosseau,
Montreuil-Bonin,
La Chapelle-Montreuil.
Ça se passe au collège Arthur Rimbaud de 18h à 19h.
Fréquence Buissonnière.
Salut, c'est Mickaël, vous êtes sur Fréquence Buissonnière 102. Combien ?
Aujourd'hui, nous franchissons notre dernière haie en direct et nous pourrons apercevoir trois brigands de Chalandray
maternelle
qui traverseront le plateau de sportifs au collège de Latillé pour aller faire une promenade sur Vouillé
CM
et écouter une histoire de Quincé
maternelle,
aussi qu'une interview de sculpteur au collège de Latillé, puis nous irons écouter quelques chansons
de Quincé, Vouillé et de Benassé.
Et nos rubriques habituelles. Enfin, nous allons savoir la fin du feuilleton.
Coucou, nous sommes la classe de CM1 de l'école du Petit Bois, à Vouillé. Nous sommes dans le centre de Vouillé, devant l'ancienne porte de ville ou portal. C'est ce qui reste des murailles de Vouillé. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à passer dessous ce porche. Il y a une magnifique boulangerie sur la place, etc., etc. Je passe la main à mes camarades qui vont continuer à vous décrire ce petit Vouillé.
Attention, attention, attention. Nous partons, nous les filles et les garçons.
Au-dessus du portail et à droite, nous distinguons les locaux de la mairie. Cette façade a été entièrement refaite. Au-dessus du portail, les pierres se voient. Le reste de la façade a été recouvert d'aluminium entre les grandes ouvertures vitrées, comme au Futuroscope. La partie ancienne du Moyen-Âge touche à la porte nouvelle. L'entrée de la mairie, qui occupe une vingtaine d'employés, se fait par la partie nouvelle.
Au-delà du pont, nous admirons un jet d'eau qui jaillit hors de la rivière, l'Auzance. Des canards et des oies s'amusent sous le jet d'eau. Une balise scellée dans le parapet du pont nous indique que nous sommes sur cette place à 106,82 m plus haut que le niveau de la mer.
Mais saviez-vous que le sel contenu dans les océans suffirait à couvrir tous les continents d'une couche de 150 mètres d'épaisseur ?
Merci.
Le panneau blanc à côté de la marchande de fleurs nous explique l'histoire de notre région. En 507, la date de la première bataille des trois batailles de Poitiers s'est déroulée à Vouillé. Cette bataille s'est terminée par la victoire de Clovis le Franc sur Alaric II le Visigoth. C'est très très important. Si notre pays s'appelle la France, c'est grâce à cette bataille.
Merci.
Le saviez-vous que les chevaux et les hommes vivaient ensemble depuis 30 000 ans ?
Nous partons à la frisette, ou, nous partons à la frisette, les moustaches, les gros. Nous partons à la frisette, ou, nous partons à la frisette, les moustaches, les gros. Attention, attention, tout le monde a randonnant. Nous partons, nous partons. Nous partons à la limette des grandes, grandes, grandes.
102.9, une seule fréquence, fréquence buissonnière.
Fréquence buissonnière.
Jaajeufete jotay jollof dem ba dik ci bir pench mi tay ji ci bir pench mi man mi mbegandour ci bir keur gi tay ji ci fréquence buissonnière. Jaajeufete bou, n'oubliez pas 102.9.
Bonjour à tous. Avec Vincent et Sébastien, là, on a fait une chronique sur le sport et la femme. J'aurais voulu savoir pourquoi, Madame Bacali.
Alors, l'idée de départ était de recruter en fait des filles pour l'association sportive du collège. Nous n'avons qu'une licenciée sur 30 participants, ce qui est peu. Nous sommes rendus compte que beaucoup de filles au collège jouaient ou faisaient un sport d'un assez bon niveau dans le collège. Donc ainsi, on a pu voir des sportives qui jouaient au badminton, au volleyball, au curling bâton. Et par l'intermédiaire de l'association sportive, on a pu approcher de près des athlètes de haut niveau un mercredi après-midi.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là, sur les athlètes de haut niveau ?
Alors, c'était une journée UNSS indoor. C'était un mercredi après-midi. Il y avait des rencontres UNSS et le championnat du département. Donc il y avait plein d'épreuves et il y avait aussi des démonstrations d'athlètes de haut niveau. Alors on a fait plusieurs interviews, une décathlonienne, je sais pas comment on dit, et la mère d'un des élèves aussi qui a été championne de France de 400 mètres.
Donc cette personne s'appelle comment ?
C'est la mère de Romain Berthaud.
Donc on va l'entendre tout de suite.
Fréquence buissonnière !
Quelle est ta discipline ?
Alors ma discipline c'est le 400 mètres et le 800 mètres.
Depuis combien de temps fais-tu ça ?
J'ai commencé à l'âge de 10 ans, je me suis arrêtée à l'âge de 18 ans et j'ai repris il y a 5 ans.
Quel niveau tu as ?
Alors là mon niveau c'est National 3 sur 800 mètres. J'ai donc fait comme performance de 18.
Combien fais-tu d'heures d'entraînement par semaine ?
Je m'entraîne 3 fois dans la semaine, voire de 2 à 3 fois. Entre 1 heure et demie d'entraînement à chaque fois, c'est tout.
Quel est ton palmarès ?
Mon palmarès, cette année, j'ai donc fait... Je suis championne de France indoor sur 800 mètres. Troisième championnat d'Europe sur 800 mètres. Et toujours à l'intérieur, hein, indoor. Quatrième championnat de France sur piste l'été. Et quatrième championnat de France. Et j'ai donc fait aussi un match international sur 800 mètres. Avec France, Angleterre, Pays-Bas, Belgique.
As-tu rencontré des personnes célèbres ?
Des personnes célèbres, j'ai rencontré des internationaux, oui, seniors. Seniors filles qui étaient qui ont fait la une des journaux en seniors filles.
Quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui veut débuter dans l'athlétisme ?
D'abord, il faut le prendre comme un loisir, hein, un plaisir, le plaisir de courir. Hein. Et ensuite, parce qu'il faut savoir que l'athlétisme, c'est un sport individuel. Il faut quand même s'entraîner, mais il faut y croire aussi. D'abord un jeu, un loisir, et ensuite, voir au niveau des performances. On fait quelques compétitions, et puis petit à petit, on se prend en jeu, et voilà.
Quelle est ta plus grosse compétition ?
Ma plus grosse compétition, c'était les championnats d'Europe en salle cet hiver-là. Et ma plus grosse émotion sportive, surtout cette année, c'était j'ai terminé troisième au championnat de France de relais au 4x800. Et là, c'est une très très grande émotion. Et même à 40 ans, c'est super. Avec des petites jeunes, c'est super. Et j'espère que vous allez connaître ça.
Quel dopant prends-tu pour courir plus vite ?
Avant tout, le plaisir de courir plus vite, le plaisir. Et puis le dopant, c'est la hargne sous mes chaussures. Parce que j'ai envie de battre les petites jeunes qui sont devant moi, donc c'est la hargne, c'est mon seul dopant.
Que penses-tu du dopage ?
Le dopage, je pense que c'est un phénomène de société dans le monde entier d'ailleurs, et je suis contre le dopage bien entendu.
D'accord, merci.
Cette interview a été réalisée par Romain Berthaud, le fils de Madame Berthaud.
De retour sur le plateau de Fréquence Buissonnière avec Damien. Damien, tu vas nous dire qui tu as interviewé ?
On a interviewé une décathlonienne qui est Jama Ikona.
Et c'est quoi décathlonienne ?
Alors le décathlon c'est une discipline, il y a trois types de sport dedans. Il y a le lancer, il y a la course et le saut.
Merci Léo.
Merci.
Voilà, on va l'écouter justement.
Quel est votre nom et votre prénom ?
Je m'appelle Jama Ikona Christiane.
C'est quoi votre discipline ?
Je fais du décathlon.
Vous êtes spécialiste du décathlon ou pas ?
Oui, oui.
À quel âge avez-vous débuté?
J'ai commencé, j'étais en CM2, je devais avoir 10 ans.
Quel est votre niveau actuel à peu près?
Je suis en national.
Avez-vous fait du sport-études?
Oui, je fais du sport-études.
Et pourquoi?
Parce que j'aime ça.
Avez-vous des enfants?
Non.
Avez-vous un travail à part?
Non, je suis étudiante.
Votre palmarès?
Cette année, j'étais championne de France au poids. J'ai été blessée, donc j'ai dû arrêter pendant un an l'athlète. J'ai repris cette année. J'étais championne de France sur 107 mètres et en benjamin, au triple saut. Et puis j'ai été finaliste championne de France aux épreuves combinées et j'ai terminé 11e.
Vous avez combien d'heures d'entraînement à peu près par semaine?
2 heures.
Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes célèbres, enfin des athlètes célèbres?
J'en côtoie aussi Nicole Ramalala-Ririna, Patricia Gérard, Christine Aron, Muriel Urtis et bien Maurice Guin aussi.
C'est quoi votre plus grosse compétition?
On peut dire les présélections de l'équipe de France avec la Grande-Bretagne et puis les Allemands.
Et qu'est-ce que vous pensez du dopage?
Du dopage, je trouve que c'est stupide les personnes qui se dopent parce que vous mieux progresser en s'entraînant que progresser avec des médicaments et puis autre chose.
Quel conseil donneriez-vous à des gens qui veulent débuter dans votre discipline?
De venir s'inscrire déjà, de venir au stade, faire un effort, s'entraîner, écouter, toujours faire des études à côté, faire du sport à côté, et puis être motivé surtout.
De retour sur le plateau de Fréquence Buissonnière avec Antoine, Léo, Damien, Olivier, Madame Bacali, Brieux et Gaël, et Vincent qui présente sur ce plateau. On excuse Sébastien de ne pas être là aujourd'hui, il est en Bretagne, mais nous on est à l'Attillé, bien présent. Donc je voudrais revenir sur l'UNSS, les entraînements, comment ça se passe, Damien?
Les entraînements c'est le lundi et le jeudi pour les sports collectifs, le mardi et le vendredi pour les sports de raquettes, on a quelques entraînements le mercredi après-midi, et puis les championnats qui se passent le mercredi après-midi aussi.
Et si on jouait au foot, ça vous dit quelque chose, ça?
Oui. Alors, la finale, c'est lundi 25. Alors, il y aura la finale entre deux équipes de 6e, deux équipes de filles, deux équipes de 4e, 3e. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Il est organisé par qui?
Ouais, c'est organisé par moi, Brieux, Antoine et Léo.
C'est surtout un tournoi organisé par les élèves de l'UNSS, hein, complètement géré en autonomie. Quand est-ce qu'ont eu lieu les rencontres?
Alors les rencontres ont eu lieu entre midi et 2. À des dates données, on avait fait un planning et les rencontres avaient lieu ces jours-là.
Qui était l'arbitre de ces rencontres?
En fait, les arbitres, c'était nous. Donc à chaque fois, on tournait pour arbitrer.
Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que les élèves ont été sensibles à votre arbitrage?
Oui, je trouve qu'il y a eu beaucoup de respect des règles. Enfin, sauf quelques équipes qui ont été mal fair-play, qui n'ont pas été bien fair-play. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était bien.
Et quel est l'enjeu de ce tournoi, en fait?
C'est les premiers de chaque poule. Donc, les poules, c'est les filles, les 6e, 5e, 4e et 3e. 4e, 3e, c'est un tournoi regroupé. Donc en fait, le premier de chaque ira à Poitiers faire la grande finale.
Contre les autres collèges de tout le département, le 17 mai.
Ah oui, les résultats? Brieux.
Donc pour le foot, on a fait un championnat de foot. C'était bien, sauf qu'on a perdu, mais autrement, il y avait une bonne ambiance.
Léo?
Donc nous, en basket, basket minime, donc on a fini premier du district. Donc, ce qui fait qu'on a été en demi-finale du département, et on a perdu après en demi-finale.
Olivier?
Nous sommes alors pour le championnat de basket benjamin, nous sommes bien entraînés, nous avons été qualifiés pour la finale au collège Jean Moulin, on a perdu malheureusement 2-0.
Ouais. Je voudrais savoir, moi, tout ça, ça coûte combien le prix d'une licence, Antoine?
Le prix, c'est 100 francs à l'année. Puis on fait toutes les activités qu'on veut.
Ah ouais, en fait, c'est vraiment pas cher, quoi.
Voilà.
Et voilà. Donc je vais passer la parole à Madame Bakali.
Je voulais simplement dire que l'association sportive est ravie d'accueillir le plus de sportifs possible. Voilà, on est là pour faire du sport et s'amuser avant tout.
Ah, et je voulais rajouter aussi merci aux professeurs qui nous ont libérés pour tout le lundi après-midi pour pouvoir faire les finales du collège pour que les premiers puissent aller à Poitiers.
Et aussi à Madame Évrard quand même.
Alors, merci à tous. On va se quitter avec un match en léger différé, légèrement monté par Madame Millet. Donc voilà, bon match et au revoir à tous.
Salut.
Salut. Au revoir.
Au revoir.
Fréquence buissonnière.
Ça commence là, coup d'envoi. Donc là, on a avec nous Antoine. Antoine, toi, t'es le président, enfin celui-là qui a organisé le tournoi avec Léo, mais Léo, il est occupé pour l'instant dans le match de foot là. D'abord, petite présentation quand même, comme d'habitude, là, pour nos auditeurs.
Ouais, bah c'est Antoine. Hein.
Tu voulais poser une question, toi.
Ouais, comment t'as eu l'idée d'être l'organisateur de ce tournoi?
Bah en fait, c'est la prof de sport qui m'a proposé, puis bah j'ai accepté.
Et elle a proposé à Léo aussi.
Elle a demandé s'il y en a qui voulaient organiser.
Ah bah tiens Léo, là t'arrives, là tu vas rester là un petit peu là. Alors Léo, lui aussi c'est un organisateur avec Antoine. Salut Léo.
Je m'appelle Léo, je suis en 3ème C.
Et la prof de sport t'a donc proposé de faire ce tournoi et t'as accepté, t'étais content?
Ouais, j'étais content parce que bah j'avais envie de faire quelque chose. Fallait que quelqu'un qui l'organise. Je me suis dit pourquoi pas moi et puis voilà.
Donc bah on va commenter le match. Ballon pour les Bleus, but des Bleus.
But, but,
but. But des Bleus, centre dans la surface et but, lucarne.
Le terrain de boule. Sur le terrain de boule, on peut jouer à la pétanque. On peut y pique-niquer et on peut participer à la fête foraine tous les ans.
Une petite fille qui s'appelait le petit chaperon rouge.
Mais non, rouge!
Oh oui, le petit chaperon rouge! Sa maman l'appela et lui dit: écoute, petit chaperon vert.
Non, non, rouge!
Bien sûr, rouge! Donc sa maman l'appela et lui dit: va porter à tante Ursule ses épluchures de pommes de terre.
Non, elle lui dit: va porter cette galette à ta grand-mère.
C'est vrai. Alors la petite fille s'en alla dans le bois et rencontra une girafe.
Quelle salade! Elle rencontra un loup, pas une girafe!
D'accord. Le loup lui demanda: combien font 6 fois 8 ?
Pas du tout. Le loup lui demanda: où vas-tu ?
Tu as raison. Le petit chaperon noir répondit:
rouge, rouge, le petit chaperon rouge.
Bon, elle répondit: je vais au marché acheter de la sauce tomate.
Jamais la vie. Je vais chez ma grand-mère qui est malade. Mais j'ai perdu mon chemin.
C'est juste. Alors le cheval lui dit:
quel cheval ? C'était un loup.
Bien sûr. Donc il lui dit: prends l'autobus numéro 75, descend place de la cathédrale, tourne à droite, tu trouveras 3 marches d'escalier, et un sou par terre. Ne t'occupe pas des trois malades d'escalier. Ramasse le sou et achète-toi un chewing-gum.
Grand-père, tu ne sais vraiment pas raconter les histoires. Tu t'embrouilles tout le temps. Tant pis, ça me fait rien. Achète-moi quand même le chewing-gum.
Parfait, tiens, voilà un sou.
Et le grand-père se remit à bien son jambe. Regarde son jambe.
Centre,
tir. Bon arrêt du gardien. Et touche pour les bleus.
Touche pour les bleus ou pour les verts?
Je crois que c'est pour les bleus.
Bonjour, nous allons vous présenter l'interview d'un artiste, Monsieur Santerre Christian, sculpteur habitant Lavosso.
D'où vient votre aspiration pour réaliser vos sculptures?
L'aspiration, elle vient du moment, elle vient du matériau, elle vient de la nécessité intérieure, mais elle vient beaucoup du matériau, parce que j'utilise énormément de matériaux différents. Je travaille le plastique, le fer, le bois, le cuir, le matériau me donne énormément d'idées.
À quel âge avez-vous pressenti que vous aviez la vocation d'un sculpteur?
J'ai jamais considéré que j'avais une vocation, mais par contre, très très tôt, j'ai commencé à dessiner. Alors les arts plastiques, c'est la sculpture, c'est la peinture, c'est le dessin. Avant de faire les beaux-arts, j'étais un peu autodidacte, c'est-à-dire je faisais tout ça tout seul. Puis un beau jour, j'ai pris les choses en main, j'ai décidé de les faire sérieusement. J'ai d'abord suivi des cours du soir où je faisais du nu. Et puis un beau jour, je suis rentré aux beaux-arts et là, j'ai commencé à faire de la sculpture. En terre, je faisais du modelage, toujours d'après du nu. Puis je faisais aussi de ce qu'on appelle la taille directe, c'est-à-dire sur pierre, marbre et sur bois. Et je suis resté 7 ans aux Beaux-Arts à Paris.
Depuis combien d'années exercez-vous votre métier d'artiste?
Quarantaine d'années. J'ai fait les Beaux-Arts de Paris. Je prenais des cours du soir de dessin.
Quels ont été vos maîtres?
J'ai eu aux Beaux-Arts un maître très important pour moi qui s'appelle Étienne Martin, qui est très connu. Il a des sculptures au Centre Pompidou, au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, et puis dans pas mal de collections à travers le monde.
Enseignez-vous votre métier à d'autres personnes?
Oui, j'ai été prof à l'éducation nationale.
Travaillez-vous avec d'autres artistes? Si oui, sont-ils connus?
Non, plutôt un solitaire.
Combien de temps consacrez-vous à votre travail?
J'essaie d'être quotidien dans ma démarche, mais j'en suis loin.
Utilisez-vous des techniques différentes les unes des autres?
La soudure, la taille directe, la terre, le plâtre, les sculptures en plâtre, non? Le fer, c'est un assemblage, on prend des pièces métalliques et on les assemble. Le plastique, je le fonds avec un décapeur thermique, c'est pour enlever la peinture.
Quel artiste aimez-vous?
J'aime bien Auguste Rodin, j'aime bien Brancusi, j'aime bien Calder.
Combien de sculptures avez-vous déjà réalisées?
J'ai une production, je dois avoir au total entre 150 et 200.
Y a-t-il des sculptures chez vous?
Il y en a dans mon atelier, puis comme ma femme les aime bien, quand elle les aime bien, elle les met aussi dans la maison.
Est-il facile de vivre de la sculpture?
Non, très difficile.
Pourquoi?
Parce que c'est un art, c'est une production qui tient de la place. Donc ça s'adresse à des gens qui ont de la place. Et puis c'est quand même assez coûteux parce que ça demande beaucoup d'investigation, plus que la peinture. Ne serait-ce que pour le déplacement, par exemple, pour déplacer une sculpture, ça coûte beaucoup plus cher que de déplacer une peinture.
Où avez-vous déjà exposé?
Un peu partout, à l'étranger, à Paris. J'expose au mois de juin prochain à l'hôtel de région de Poitiers.
Est-ce que dans votre famille, une personne, enfin un cousin, ou était sculpteur ou peintre?
Non, je ne connais pas.
Voilà. Nous vous remercions.
Près du terrain de boules, il y a des oies. Quand on leur lance du pain, elles viennent tout de suite. En 1913, le boulodrome a été inondé. Je suis élève de la chapelle Montreuil et comme chaque soir, nous allons vous proposer une énigme.
Simon, énigme. Quel est le monument de France qui est plus grand l'été qu'en hiver?
Pauline Expérience. Le matin, on prend une règle en métal, on la pose sur la fenêtre et on met des repères. À midi, on va voir la règle et elle s'est allongée à cause de la chaleur.
Mathilde, explication. Avec la chaleur, le métal se dilate. La tour Eiffel est donc plus grande l'été.
Fréquence buissonnière, radio des écoliers et des écolières.
Vous allez présenter une pièce qui peut se jouer au théâtre, qui s'appelle La porte qui grince. Le Père Noël est joué par Romain. Le joueur de flûte est joué par
Kevin.
Les souris sont jouées par
Mona.
Lou. La poule et son poussin sont joués par
Célestine. Par Clémence.
La famille Jean-Tampon sont joués par
la maman
Fanny. Le papa
Quentin.
Et le fils
Emma.
Et maintenant, nous allons jouer la pièce. J'ai oublié le lutin. Il est joué par Léonie.
C'est la nuit de Noël. Le Père Noël et son lutin viennent d'arriver à Cancé, au coin de la rue des Quatre Pins. Ils ont quelques cadeaux à déposer. La famille, j'entends tout. Oh, mais chut, les voilà. Mais je suis perdue. Ou avec donc la famille Jean-Pompou. Ce n'est pas difficile, Père Noël. T'as qu'à ouvrir toutes les portes, on finira bien par la trouver. Mais elle est fermée, là. Quelle jolie porte. Tu crois que c'est la maison de Monsieur Jean-Pompou? Je ne sais pas, moi. Ouvre-la. Elle est fermée à clé. Attends, Père Noël, je crois que j'ai la clé. Le Père Noël ouvre la porte. Un petit garçon dort, enveloppé d'une grande couverture, un turban sur la tête. Oh, c'est un joueur de flûte qui fait danser les serpents. Mais j'ai un cadeau pour lui. Le Père Noël sort de son traîneau une jolie flûte en bois et la pose au pied du petit joueur de flûte. Bon, 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 dépêchons-nous. Allons plus loin. Quel drôle de porte. Oh, elle est dans le fromage. Je la connais, Père Noël. C'est la maison des souris. Le Père Noël ouvre la porte et aperçoit deux petites souris endormies, blotties l'une contre l'autre. Comme elles sont mignonnes. On n'a rien pour elles. Si, si, il reste un biscuit que nous n'avons pas mangé. Le Père Noël s'approche doucement et accroche au mur le biscuit un peu ramolli. Dépêchons-nous, dit-le. Le Père Noël en ouvrant, qui s'arrête devant une porte très bizarre en forme d'œuf. Tiens, tiens, tu la connais, toi? Non, non, Père Noël. N'ouvre pas, c'est la maison de la poule, elle va réveiller tout le quartier. Ça cote, cote, connaque, cote, cote, connaque. D'accord, d'accord, tout le monde peut se tromper. Au bout de la rue, fatigué, le Père Noël et son lutin s'assoient près de la porte de la dernière maison. C'est une double porte où sont destinées deux énormes oreilles. Et cette maison, tu la connais, toi? Ah, ça, non, Père Noël. Mais ouvrons-la. Ensemble, ils tirent la porte qui se met à grincer comme une petite misère. Derrière la porte, toute une famille se tient debout en pyjama et en chemise de nuit. Mais qui êtes-vous?
On est la famille d'Antoine-Tou.
Ah, c'est vous? Mais qu'est-ce que vous faites là?
Vous n'êtes pas couché. Tu nous as réveillés avec la porte qui grince. On entend tout.
Oh là 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 là, j'aurais dû passer par la cheminée.
Ah non, Père Noël, il y a encore du feu. Mais viens, entre. Et viens te réchauffer avec nous.
Quelque chose à te faire écouter.
Le Père Noël et son lutin entrent se mettre au chaud, sans oublier les cadeaux, bien sûr. La porte se referme, grinçant.
Le compteur, c'est moi, Léonie.
Et hop!
Devinette. Devinette. Devinette.
Bonjour, nous sommes les enfants de CP de l'école de Quincey. Nous nous retrouvons pour vous proposer la suite de nos devinettes fruits. Tout d'abord, voici les réponses aux devinettes proposées hier. Il fallait trouver le litchi, le kiwi, la noix, la pêche, le citron. Aujourd'hui, Quentin, Laura, Marie, Sébastien et la classe vous proposent leur devinette.
C'est un petit fruit, il pousse dans un arbre. C'est un fruit rouge, avec ce fruit on peut se faire des boucles d'oreilles.
C'est un fruit qui a une peau jaune ouverte. Il est rond en bas et un peu allongé en haut. Il est mûr en automne.
Mon fruit pousse dans des pays chauds. Il est plus gros qu'une pomme. La pulpe est granuleuse. Il est jaune, mais la pulpe peut être jaune ou rose.
C'est un fruit à noyau. C'est un fruit assez gros. On ne mange pas sa peau. La pulpe est difficile à séparer du noyau. Le noyau est gros et plat. Le fruit a un peu la forme d'une poire.
C'est un fruit qui a une coquille. On la casse avec un marteau.
C'est un petit fruit.
C'est un fruit marron.
Il ressemble à une noix.
C'est un fruit plat.
Vous avez trouvé les réponses ? Eh bien, ce soir, nous vous les donnons. Il fallait trouver la cerise, la poire, le pamplemousse, la mangue et l'amande. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Au revoir, bon appétit.
Bon alors, le coup d'envoi va pas tarder là, et voilà. Oh là 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 là, contre-attaque, ballon pour les bleus là.
Les trois brigands, Tommy Ungerer. Il était une fois, trois vilains brigands, avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. Le premier avait un tromblon. Le deuxième, un soufflet qui lançait du poing. Et le troisième, une grande hache rouge. La nuit, au clair de lune, ils se tenaient cachés au bord de la route. Ils faisaient peur à tout le monde. Lorsqu'ils apparaissaient, les femmes s'évanouissaient de frayeur. Les chiens filaient ventre à terre. Et même les hommes les plus courageux prenaient la fuite. Si les voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux. Et naturellement, les voitures s'arrêtaient. Alors, ils démolissaient les roues. Puis, avec le tromblon, ils menaçaient les voyageurs et les dévalisaient. Leur cachette était une caverne en haut de la montagne. C'est là qu'ils transportaient ce qu'ils avaient volé. Ils avaient des coffres pleins d'or, pleins de perles et de bijoux et de pierres précieuses. Mais voilà qu'une fois, par une nuit très sombre, ils attaquèrent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur. Et c'était une pauvre petite fille qui s'appelait Tiffany. Elle était orpheline et se rendait auprès d'une vieille tante grognon chez qui elle allait vivre désormais. Cela ne lui plaisait pas du tout et elle fut bien contente quand tout à coup les trois brigands se dressèrent devant elle. Comme il n'y avait dans la voiture rien d'autre à prendre que Tiffany, ils l'emportèrent précieusement dans leur caverne. Là, ils lui firent un lit moelleux. Le lendemain, quand Tiffany s'éveilla, elle vit des coffres remplis de trésors.
Mais qu'est-ce que vous faites de ces trucs ?
Ceux-ci se regardèrent tout étonnés. Jamais ils ne s'étaient demandé ce qu'ils pourraient faire de toutes ces richesses. Alors, comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup, ils décidèrent de partir à la recherche d'autres enfants malheureux et abandonnés et de s'occuper d'eux. Ils achetèrent un magnifique château pour loger tous ces enfants. Chaque enfant reçut un manteau et un chapeau, comme ceux des brigands, mais rouges. Naturellement, cette histoire fut vite connue dans toute la région. Et chaque jour, de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du château. Ils étaient tous recueillis et vivaient là jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Alors, ils se construirent des maisons dans le voisinage. Et bientôt, cela fit toute une petite ville. Tous ses habitants portaient un manteau et un chapeau rouge. À la fin, ils bâtirent une muraille tout autour de la ville, avec trois tours imposantes, une pour chaque brigand, pour les remercier.
Lisette, Lisette, t'as une drôle de minette. Lisette, Lisette, t'as une drôle de minette. T'as toujours mal partout et tu te plains de tout.
Quand t'as pas mal aux yeux,
t'as mal à tes cheveux.
Quand t'as pas mal au front,
t'as mal à ton menton.
Quand t'as pas mal aux dents,
t'as mal à tes collants.
T'as pas mal au bras,
t'as mal à l'estomac.
Quand t'as pas mal au cou,
t'as mal à tes genoux.
Quand t'as pas mal au cœur,
t'as mal à tes rougeurs. Lisette, Lisette, t'as une drôle de minette. Lisette, Lisette, t'as une drôle de minette. T'as toujours mal partout et tu te plains de tout.
Quand t'as pas mal au nez,
t'as mal à tes doigts de pied.
Quand t'as pas mal aux couettes,
t'as mal à tes lunettes.
T'as plus mal,
t'as mal à tes sandales. Lisette, Lisette, t'as une drôle de minette. Lisette, Lisette, t'as une drôle de minette. T'as toujours mal partout et tu te plains de tout.
Quand t'as pas mal aux yeux,
t'as mal à tes cheveux.
Quand t'as pas mal au front,
t'as mal à ton menton.
Quand t'as pas mal aux dents,
t'as mal à tes collants.
Quand t'as pas mal aux bras,
t'as mal à tes estomacs.
Quand t'as pas mal au cou,
t'as mal à tes genoux.
Quand t'as pas mal au cœur,
t'as mal à tes rougeurs.
Quand t'as pas mal au nez,
t'as mal à tes doigts de pied.
Quand t'as pas mal aux couettes,
t'as mal à tes lunettes.
Et puis quand t'as plus mal,
t'as mal à tes sandales.
Le feuilleton.
Le feuilleton.
Sacré peur chez les chadeurs.
Sacré peur chez les chadeurs.
Épisode 5, enfin réunis. Après l'appel téléphonique du ravisseur, Eric, notre policier, poursuit son enquête. Il retourne dans la chambre de Marc et essaye de suivre les traces de chaussures. Il mène son enquête à haute voix.
Très intéressant. Je me demande bien jusqu'où vont ces empreintes. Alors, on sort de la chambre. Je traverse le couloir. Ah, voie escalier de secours. Très intéressant. Vraiment très intéressant. Bon, je descends. Ah, le parking. Oh, mais qu'est-ce que je vois là ? Un morceau de tissu marron. Intéressant. Très intéressant. Mon petit Eric, tu me surprendras toujours. Bon, je poursuis. Tiens, des traces d'huile et ici des traces de pneus. J'appelle le labo pour analyser ses marques.
Il remonte ensuite dans l'hôpital par l'escalier de secours, convoque ses collègues et leur explique ce qu'il a trouvé. Entre-temps, les parents ont réfléchi aux paroles prononcées par leur fils et le voient.
Monsieur l'inspecteur, nous pensons que ce voix signifie peut-être voisin. Mais lequel mystère ?
S'interroge Yvette.
Très intéressant. Vraiment très intéressant. Avec la description faite par le clown, nous allons pouvoir identifier le kidnappeur de votre fiston. Reprenons le témoignage de Cocorico. L'homme avait entre 30 et 35 ans. Il était brun, un peu fort. Sa voix est grave. Cette description vous rappelle-t-elle quelqu'un ?
Les parents réfléchissent longuement, puis Louis lance.
Oui, ça pourrait être Jérôme Schmitt.
Vous n'avez jamais eu de problème avec lui ?
Je ne crois pas. En plus, il n'a pas de voiture.
Allô ? Oui ? Bon, je note. Tu dis une Renault 18 des années 80. Merci. Bon, vous avez entendu ? Connaissez-vous quelqu'un qui a ce type de voiture ?
Oui, les parents de Fred, le meilleur ami de notre fils, mais ça ne peut pas être la description du ravisseur, ne correspond pas du tout à Jean-Pierre.
On leur a sûrement volé leur voiture. J'appelle le central, on va vérifier. Bon, en attendant, vous devriez aller à la banque chercher la rançon.
À 10h15, les jadeurs rentrent à la banque, vont voir le guichetier, lui explique le problème et récupère l'argent qu'ils mettent dans une valise. Il retourne ensuite à l'hôpital pour voir si l'enquête progresse. Là-bas, Eric leur explique que la voiture de leur ami a bien été volée. Il continue.
Je pense que c'est bien Jérôme Schmitt qui a fait le coup. Tout concorde. Vous allez nous expliquer très précisément où il habite pour qu'on aille le coincer.
Les parents s'exécutent et se préparent ensuite pour aller donner leur rançon. Quand arrive 13h30, Louis inquiet se rend au parc. Dès 13h50, il arrive tremblant de peur et attend devant l'entrée du jardin une valise à la main. À 14h précise, le kidnappeur, le visage cagoulé, un grand sac sur le dos, arrive à son tour.
Alors, Jadeur, t'as l'argent ?
Pas besoin de cagoule, Schmitt, on sait que c'est toi.
Comment ça ?
Pas de chance, tu as laissé tes indices qui t'ont démasqué.
Assez parlé, le fric.
Non, mon fils d'abord.
Et dans ce beau sac ? Là, allez, passe-moi la valise.
L'échange se fait et Jérôme s'enfuit à toute vitesse.
Arrête-toi !
Crie Louis, mais l'homme continue à courir en direction du bois où l'attend la Renault 18 volée. Le père, quant à lui, s'empresse de dégager son fils du sac.
Papa ! S'exclame Marc en sautant au cou de son père.
J'ai eu si peur, je croyais qu'il allait me tuer.
Oh mon chéri, on a eu la trouille de notre vie avec maman.
Après les retrouvailles, Louis appelle Eric de son portable.
Monsieur l'inspecteur, c'est bien lui.
Pendant ce temps, Jérôme s'énerve sur la voiture.
Mais tu vas démarrer, oui ?
Hurle-t-il en écrasant l'accélérateur. Enfin, la guimbarde démarre. Il part en trombe et se retrouve rapidement en cinquième. Il accélère constamment et grille un feu rouge. Des gendarmes le prennent alors en chasse. Jérôme s'en aperçoit rapidement en regardant son rétroviseur. Une voiture de police essaye d'éviter un garçon en vélo entre en collision avec l'automobile d'un collègue. Notre ravisseur, soulagé, pense enfin à ce qu'il va pouvoir faire avec tout cet argent. D'abord, partir à Tahiti, s'acheter une voiture. Mais déjà, il arrive chez lui, descend rapidement et fonce vers sa chambre pour y récupérer sa valise et son billet d'avion. Mais là, il est attendu par les policiers qui le saisissent tout de suite.
Vous êtes en état d'arrestation.
Jérôme tente de s'enfuir, mais Eric réussit à lui mettre les menottes.
Vous avez le droit de garder le silence et tout ce qui vous dirait pourrait être tenu contre vous.
Notre homme est conduit au commissariat où l'on emmène dans la salle d'interrogatoire.
Expliquez-vous, monsieur Schmitt.
Lui demande Eric.
Je n'ai rien à vous dire.
Si vous ne dites rien, vous risquez 2 ans de prison ferme. Réfléchissez.
Je n'ai rien à vous dire.
Si vous continuez à nier, ce sera le double.
Bon, j'avoue, j'ai kidnappé l'enfant pour me venger. Venger de quoi ou de qui?
Il y a 3 mois, j'ai été licencié de mon travail par le chef du personnel, Louis Jader. En kidnappant son fils, je faisais d'une pierre 2 coups. Je me vengeais sur Jader et je récupérais une belle somme d'argent pour partir à Tahiti.
Jérôme Schmitt est aussitôt conduit en cellule où il croupit encore.
C'était
Sacré peur chez les Jader,
un feuilleton écrit et interprété par les classes de CE2 CM1 de la Chapelle Montreuil pour
Fréquence Buissonnière.
102.9
avec Vincent et Sébastien.
102.9. Et non, ça joue toujours.
Avec Vincent et Sébastien,
on se demande où est passé l'arbitre.
Avec Vincent et Sébastien.
Ah, bel arrêt du gardien.
De retour avec Vincent et Sébastien pour vous présenter une petite séquence sur le turning bâton. Alors ça va Vincent?
Ouais, ça va, la forme, pas trop mal. Donc voilà, on est avec des élèves du collège, donc on va les présenter.
Je m'appelle Mathieu, je suis en 4ème C.
Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc à toi Clément, je crois que tu t'appelles Clémence.
Oui, je m'appelle Clémence et je suis en 4ème A.
Et à toi Noémie?
Je m'appelle Noémie, je suis en 4ème A.
Ah bah voilà. C'est quoi la différence entre majorette et twirling bâton?
En fait, bah, les majorettes on fait des défilés et tout. Et le turning bâton, c'est de la danse mélangée avec de la gym.
Pourquoi vous gueulez à chaque fois quand vous appelez les majorettes?
Bah parce que c'est chiant, on fait jamais de défilé, hein.
Quoi, ouais, c'est pas péjoratif d'être majorette?
Si, c'est nul.
Enchaînons.
Et je voudrais savoir, mais vous êtes que des filles à pratiquer le turning bâton, est-ce qu'il y a des gars ou des hommes?
Il y en a eu. Bah non, il y en avait, enfin il y en a encore.
Et j'enchaîne, c'est quoi pour l'équipement? Comment ça se passe l'équipement? Vous avez quoi? Un bâton, machin, tout
Alors en fait, on a un bâton, un juste corps.
Il est comment le bâton? C'est un bâton comment?
Bah il est en fer et puis au bout il y a des...
Ouais, des espèces de boules, j'en ai déjà vu. Mais en fait il y en a une plus grosse et une plus... Il y en a une plus grosse et puis une plus petite. Ça sert à quoi?
Bah rien, je sais rien.
À part le bâton, vous avez quoi comme équipement? Enfin vous utilisez quoi comme vêtements, chaussures, n'importe quoi? Est-ce qu'il y a des trucs particuliers?
Alors on a des juste corps.
C'est quoi des juste corps?
C'est comme un maillot de bain, mais c'est pas vraiment un maillot de bain.
C'est comme à la danse classique, quoi. C'est genre un juste corps, un tutu. Enfin, vous avez...
Ah, tu vas les énerver là.
C'est quoi le but du jeu? Est-ce qu'il y a des règles d'abord? Comment ça se passe le turning bâton? En fait, qu'est-ce que vous faites, quoi? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que vous faites au turning bâton?
En fait, on a des chorégraphies et il faut faire le moins de chutes possible.
Eh, le bâton, faut pas qu'il tombe! Eh, mais c'est trop simple, on va en faire nous, Seb.
Ouais, bien sûr.
Alors, ouais, au point de vue entraînement, comment ça se passe? Vous entraînez beaucoup?
Combien
d'entraînements par semaine? Merci, Seb.
Deux fois, ouais.
Et quel jour?
Vendredi soir et samedi tantôt.
Ouais, et autrement, vous défilez quel jour?
On défile pas.
Oh merde, oui.
Ouais, c'est moi qui les énerve. C'est combien le prix pour pratiquer le turning bâton, les cours, une licence, n'importe quoi?
250.
Alors, et vous faites où du turning bâton? C'est quel club?
C'est le club de Val dans les Deux-Sèvres.
Alors, est-ce que c'est physique? Est-ce que tu dépenses dans le turning bâton?
Mais oui, c'est pas mental.
Non, mais ça j'avais compris, c'est du sport. Bon, on va enchaîner, tant pis. Est-ce qu'il faut être adroit pour pratiquer le turning bâton? Est-ce que si t'es un peu gauche, ça va pas?
Mais oui, réfléchis un peu. Si tu balances le bâton qui te revient dans la gueule, quoi, c'est clair, faut être adroit. Enfin, faut être adroit?
Oui.
Oui, ouais. Ah oui, vous êtes combien dans votre club?
57.
À Val, sans compter les moutons, hein. Parce qu'à Val.
Ouais, parce qu'à Val, il y a plein de moutons. Bon, ben voilà, ben on s'est bien marré, hein. Ben je vais vous laisser tranquille et puis ben retourner en cours, dans la cour plutôt. Bon, ben voilà, on a fait un petit panorama de ce qu'était le turning bâton et c'est pas des majorettes, on peut le dire. Hein.
Ouais, parce que autrement, on va se faire engueuler là, obligé là. Si on dit des majorettes là dans la cour, c'est limite si on se fait pas frapper.
Ouais, donc en plus, il y a beaucoup de pratiquantes. Et de pratiquants aussi. Donc bah, je vais te dire au revoir Vincent, salut.
Ouais, salut.
Allô? Tu sais, bah moi j'étais allée chez mes copains.
Moi j'ai fait des vélos.
Tu sais, moi j'étais allée chez mes copains et puis après on a fait un jeu de bateau. On a choisi le bateau et puis après on était dans le départ. Après le bateau, ben, il est parti et des fois on se cogne. Le bateau des fois quand on fait pas comme il faut, il se cogne. Et moi, elle avait fait du vélo.
Est-ce qu'il y avait ta papa et ta maman?
Oui.
T'étais où?
Faire du vélo.
Mais où? Dans quel endroit?
À droite.
Dans une grotte?
À droite.
Qu'est-ce que t'as vu?
Les écureuils.
C'est écureuils? Et puis moi, dans les vacances, et ben, on n'arrêtait pas de jouer à l'ordinateur.
Et moi, voilà, les chiens à l'ordinateur.
T'as dit quoi?
Les chiens à l'ordinateur.
Ah, t'as un ordinateur?
Au revoir.
Au revoir.
The Weather Forecast.
The Sun.
The Weather Forecast.
Comment?
The Weather Forecast.
The Sky.
The Weather Forecast.
Comment?
En anglais, ça veut dire la météo.
Comment?
102.9.
The Weather Forecast.
Ah, là, je crois que j'ai compris.
Quoi?
The Weather Forecast.
Aujourd'hui, avec Claire,
Émeric,
Élodie,
Samuel,
Élise,
Élodie.
Hello, today is Friday, the 22nd of March.
Hello, Élodie, what's the weather like?
It's really nice today, it's sunny and warm.
So bye-bye winter and hello spring.
Yes, I can hear the birds sing. Listen to them.
Tell me, Claire, have you got a new postcard?
Of course, I've got one from Morgan.
What is she saying?
Hello, everybody. How are you? I'm in London for a week. You know what? It's really foggy here.
Oh yes, it's fog to cut with a knife.
Don't be stupid. It's a perfect fog as the English people say.
And I'm nearly sick.
Poor Morgan, free from fog to free through fast.
Oh yes, I know that Swan fuit le brouillard pour lutter rapidement contre la grippe.
So far, I've seen the British Museum, the changing of the guard and the Queen at Buckingham Palace. And I've been to Tower Bridge too. It was super. I've got some pictures to show you. See you next week, Morgan.
Alors, il va faire beau ou pas?
Comment?
Se guette, traqué à bout de souffle, marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent.
Traqué à bout de souffle, marchant, pétrifié dans le manteau d'hiver.
les livres...
La radio, ça fatigue juste la langue.
Dans notre planète, il y a des pays, des villes, des océans. Et puis mon cœur. Mon cœur qui bat tout bas.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Dans notre pays, il y a des villes, des rues, des plages. Et puis mon cœur qui bat tout bas.
Et hop,
au revoir.
Et les buissons disparaissent, oui.
Dans notre ville, il y a des fêtes, des églises, des nuages gris. Et puis mon cœur qui bat tout bas.
Alors, écoutez-leur, dit-il, ce que vous dit le grain.
Dans notre rue, il y a une forêt, des enfants, de la pluie et des parapluies. Et puis mon cœur qui bat tout bas.
Le saviez-vous que si vous vouliez compter jusqu'à 1 million, il vous faudrait à peu près 23 jours. Et si vous vouliez compter jusqu'à 1 milliard, vous compteriez pendant 95 ans.
Merci.
Le ballon est encore au bleu, ils sont 4 dans la surface. Ah, une passe en profondeur qui ne sait pas... Ah, 6 mètres. 6 mètres pour les verts. La relance des verts.
Dégagement par le gardien.
Attention, la gardienne.
Oh là 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 là, il y a des gages n'importe où, la gardienne.
6 mètres. Point troll. Et une touche pour les bleus.
Ah, oui.
Une touche pour les bleus.
Il va tuer l'arbitre.
Ah, corner.
Non, qu'est-ce qu'il nous fout?
Dans ma vallée, il y a Losange. Cette rivière majestueuse et fière qui chante et clapote sur les cailloux clairs. Et moi, de la fontaine au lavoir, de l'école à la mare, je cours, toujours, toujours.
Attention, relance pour les verts, passe à côté du but et qui ne parvient pas à sa destination. Ballon toujours pour les bleus, relance des bleus. Les bleus ont le ballon, les blancs, attention, centre. Ah,
ils sont pas entendus là.
Mauvais centre.
Dans ma commune, il y a 100 000 arbres, chênes, érables et robiniers pour étouffer les déchets. C'est à notre seringa et forsythia pour fleurir mon jardin à moi. Chêne, être ou peuplier qui habite à la forêt ou la vallée. Il en est un qui est fils unique. Il habite à l'école publique. C'est un chêne d'Amérique. Comme lui, je cours. Toujours, toujours. Toujours, toujours. Toujours, toujours.
Merci.